La marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Voici le vol nuptial du Martin Pêcheur qui papillonne au-dessus de l'eau comme un bijou bleu et vert.
Cette semaine, Valérie Chansigaud, l'immense toile de la nature. Dernier épisode, les combats pour la nature.
Cher Nelson Mandela, c'est un honneur pour moi et aussi un grand plaisir de parler devant vous. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. La nature mutilée, surexploitée, ne parvient plus à se reconstituer et nous refusons de l'admettre. L'humanité souffre, elle souffre de mal développement, au nord comme au sud, et nous sommes indifférents. La Terre et l'humanité sont en péril et nous en sommes tous responsables. Il est temps, je crois, d'ouvrir les yeux.
Ouvrir les yeux, Johannesburg 2002. Les années passant, le début du discours impromptu que Jacques Chirac tint alors revient tel un mantra, un peu toute proportion gardée comme le fameux « Faisons un rêve » de Martin Luther King. Mais dans les deux cas, les recommandations politiques qui suivaient la formule devenue slogan ont été oubliées depuis. Chirac président s'est-il seulement souvenu lui-même des avertissements qu'il avait lancés? Mal développement, urgence de faire reculer la pauvreté, corriger les trajectoires de la production et de la consommation? C'est que l'environnement, ce sont des solidarités qui interfèrent, mais aussi des égoïsmes qui verrouillent. Et le rapport de force entre les solidarités et les égoïsmes amène ainsi nos présidents de la République, les uns après les autres, à se dire dans leur fort intérieur, et parfois à dire à l'extérieur, ces questions d'environnement, ça commence à bien faire. La relation intime qui unit l'individu et la Terre, une fois qu'elle est exprimée en termes politiques et sociaux, impose pourtant de poser des actes. Ce n'est pas que nous vivions la fin du monde, nous sommes dans la fin d'un monde. Et la question des fins du mois des gens modestes doit être posée dans ce cadre. Ou plutôt, il faut partir des préoccupations nées dans la société pour mener le combat politique de l'écologie. C'est ainsi que l'homme deviendra la conscience politique de la Terre, pour reprendre une belle formule du géographe Élisée Reclus.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun, sur France Inter.
Élisée Reclus, c'est un nom qu'on a prononcé grâce à vous plus d'une fois pendant cette semaine. Valérie Chansigaud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes une disciple d'Élisée Reclus, on va encore le redire. Nous faisons aujourd'hui référence à votre dernier ouvrage, qui pour une fois n'est pas paru chez Delachaux et Niestlé, je redis quand même le nom de cette excellente maison d'édition, mais chez Buchet-Chastel, autre maison honorable et ancienne. C'est un livre qui permet de vous situer dans la tradition foisonnante des différentes théories écologiques. Mais je voudrais qu'on commence par un jeu, à parts égales peut-être, entre Élisée Reclus et d'abord Malthus. Malthus, nous sommes au lendemain de la Révolution française.
Oui, il fait paraître sa première version de son traité de population en 1798.
Alors on est souvent injuste dans les extraits de Malthus que de temps à autre on lit à la radio. Celui-ci par exemple va peut-être donner l'impression d'une hostilité de départ de Malthus aux pauvres, alors que c'est le souci, l'inquiétude du devenir des pauvres qu'il a amené peu à peu à des positions que ses disciples ont extrémisées.
Un homme qui est né dans un monde déjà possédé, s'il ne peut obtenir de ses parents la subsistance qu'il peut justement leur demander, et si la société n'a pas besoin de son travail, n'a aucun droit de réclamer la plus petite portion de nourriture. Et en fait, il est de trop. Au grand banquet de la nature, il n'y a pas de couvert vacant pour lui. Si les convives se serrent et lui font place, d'autres intrus se présenteront immédiatement, demandant la même faveur. L'ordre et l'harmonie des festins sont troublés. L'abondance qui régnait auparavant se change en disette. En conséquence, Il faut désavouer publiquement le prétendu droit des pauvres à être entretenu aux frais de la société.
Dites-moi, le malthusianisme a connu des fortunes diverses, il a rebondi après la Deuxième Guerre mondiale. On se souvient dans les années 60 de ce livre qui s'appelait La Bombe, paix comme population, une bombe. Juste une remarque en passant, dans les milieux écologistes, le malthusianisme circule,
oui,
existe.
Oui, il circule beaucoup. C'est une idée qui est très très largement répandue, certes sous une forme atténuée. On n'est plus aussi extrême que Malthus, mais on va dire grosso modo toujours les mêmes choses, à savoir que on est trop nombreux, que le problème c'est juste une question de nombre, mais pas de mode de vie, pas de répartition des richesses, pas... Et quelque part, comme chez Malthus, il y a l'idée que les pauvres sont responsables de l'état de pauvreté dans lequel ils sont. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va retrouver absolument partout et de façon omniprésente dans une certaine littérature en faveur de l'environnement.
Une certaine, qui n'est pas la vôtre. Parce qu'il est temps quand même, au moment de la cinquième émission, qu'on sache un peu quelles sont les bases théoriques de votre engagement. Vous, vous n'êtes pas du tout dans cette conception. Et... relisons le cher Élisée Reclus, que vous citez plus d'une fois. Lui, il croit au progrès matériel. Enfin, du moins, il pense que le progrès matériel n'est pas mauvais en soi, du moment qu'il peut servir un idéal égalitaire, et qu'au fond, bah, la Terre serait peut-être assez vaste pour nous porter tous.
Alors ça, c'est une idée qui est affirmée par Reclus et puis par bien d'autres avant lui, que si l'on répartissait mieux les richesses, si on gaspillait moins, par exemple, on pourrait faire vivre une population beaucoup plus grande. Que le problème n'est pas tant le nombre absolu que, encore une fois, l'usage qui est fait des produits de la Terre. Faire une société divisé par 2 ou divisé par 3 ou divisé par 5, si elle est aussi inégalitaire qu'aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment un projet intéressant ? La question est vraiment dans le mode de société dans lequel on veut vivre. Reclus, comme avant lui, William Godwin, quand il répond à Malthus, insiste sur cette question-là. C'est le type de société qui est important.
Mais avouez quand même que le mot « progrès », il est assez mal porté chez la plupart des sympathisants ou des gens de sensibilité écologiste. Reclus ne dit pas que le progrès sera nécessairement linéaire, il en a une conception plus subtile, mais il dit que le besoin de progrès social, c'est un levier pour l'évolution.
Oui, il va très très loin dans cette idée, parce qu'il est darwinien, comme son ami Pierre Kropotkin, un autre géographe, un autre anarchiste, qui va écrire de l'entraide au début du XXe siècle. Et pour les deux, il voit la question sociale comme une sorte de résultante de l'évolution naturelle qui conduit à l'amélioration des sociétés. C'est vraiment une marche, une exigence, un besoin naturel. Pour autant, il ne verse pas dans une sorte de, je sais pas, de fascination pour l'intelligence humaine, parce qu'il se rend bien compte, il a des phrases très mesurées, il est très fin comme analyste. Il considère qu'effectivement, le progrès peut être accompagné de regret, c'est un mot qu'il utilise, un progrès négatif, et qu'il faut bien faire la part des choses.
Second caractère de votre engagement, la priorité peut-être au pragmatisme social plutôt qu'à la théorie, bon parce que 1866, le mot écologique est utilisé en Allemagne, après l'idée que les communautés vivantes font système s'impose, après il y a le mot écosystème, après il y a le mot biosphère, mais... c'est pas de la science écologique qui est en train de naître que naissent les premiers mouvements. Les premiers mouvements, ce sont des mouvements de protection en Allemagne ou en Amérique. J'aimerais qu'on s'arrête un instant à Teddy Bear, à Theodore Roosevelt, le premier président américain 1901-1908, a porté ce nom, qui est un personnage intéressant.
Theodore Roosevelt est tout à fait à part dans l'histoire américaine. C'est peut-être, même si le terme pourrait être sujet à caution, le premier président et le seul président américain écologiste. C'est-à-dire, il va avoir un souci très important de la conservation des ressources naturelles, pas simplement que les ressources comme la capacité des sols à produire des cultures, mais également les forêts, également le pétrole et le charbon. Il s'inquiète dès 1904 du gaspillage de ces deux ressources en disant il n'y en aura peut-être plus pour les générations futures. C'est un mot qu'il emploie. Et c'est extrêmement intéressant parce qu'à son époque, il y a vraiment l'idée qu'on doit protéger effectivement la nature, mais pas seulement que pour elle-même, aussi pour les bienfaits qu'on peut en tirer.
Enfin, ne faisons pas quand même de projections anachroniques sur le passé, parce que les comportements du président Theodore Roosevelt ne laissent pas parfois de nous étonner aujourd'hui. Cet extrait ici d'un film de John Milius.
C'est l'ours dont on a parlé ?
C'est celui qui, à l'aube, a attaqué un de nos corrales.
Est-ce vous-même qui l'avez tué, monsieur le président ?
Oui, à mon grand regret.
Pourquoi à votre grand regret, monsieur le président ?
Parce que c'est un bel animal. Et qu'il était dans sa vallée. Cette vallée lui appartenait et c'est nous qui sommes les intrus ici.
Avez-vous l'intention d'en faire un tapis pour la Maison Blanche, monsieur le président ?
Jamais de la vie. Non, j'ai l'intention de le faire empailler et de l'exposer au musée Smithsonian.
Monsieur le président, aurait-il une suggestion à faire ?
Certainement. Regardez, je vais vous montrer.
Il faut toujours montrer le grizzly américain dans une attitude de combat. C'est celle qui le dépeint le mieux. Vous y êtes ? Dressé sur ses pattes de derrière, debout, avec ses énormes pattes de devant, tendues comme cela, les crocs apparents, toutes griffes dehors et grondant. Ah, ah. Pouvez-vous faire une esquisse dans ce genre-là ?
Prenez une photographie.
Quand vous voudrez, vous êtes prêt ?
Père Grognoncor !
Bien. Ah !
Voilà, c'est ainsi que doit être empaillé l'ours. Le président Roosevelt, quand il ne sera plus président, sera partisan de l'intervention militaire des États-Unis, à qui il reconnaît des vertus pionnières.
Oui, alors, c'est important de distinguer deux choses. C'est-à-dire que c'est un protecteur efficace de l'environnement. Ce qu'on lui attribue dans cet extrait de film, notamment l'idée que le prédateur qu'il a abattu était dans son milieu, en quelque sorte dans son territoire, ça c'est une pensée qui est tout à fait étrangère à son époque. Vraiment, personne ne réfléchit comme ça au début du XXe siècle. C'est vraiment un anachronisme complet. C'est l'idée qu'effectivement, on peut améliorer la société. Il y a quelque chose de positif. La protection de la nature vise pas à sacraliser la nature, mais éviter un comportement égoïste et désastreux de l'égoïsme humain. Il s'agit plus d'améliorer le fonctionnement de la société que de magnifier simplement la nature. On refuse la destruction de la nature au nom de valeurs humaines.
Mais l'Amérique est très riche pour vous en penseurs. Vous lisez beaucoup de textes américains. Je vous ai entendu prononcer deux fois, depuis le début de l'émission, le mot « gaspillage ». Comme si le mot « gaspillage » était nécessairement négatif. Il y a un grand penseur américain, Veblen, auquel vous faites souvent référence. Veblen donne sa place au comportement qui nous pousse au gaspillage. Et il s'agit pour nous d'être considérés.
Pour Veblen, la consommation et le gaspillage, qui est une forme de consommation, a un sens social, une utilité sociale. On gaspille, on consomme pour pouvoir avoir de la valeur sociale aux yeux des autres. Parce que je peux faire quelque chose qui ne sert à rien, mais qui dépense de l'énergie, de l'argent, eh bien je montre mon statut.
Par exemple, votre vieux smartphone, là, c'est un rossignol, ça ne vous permet pas d'être considéré.
Peu, j'ai quand même un smartphone, donc j'ai quand même ma place dans la société, mais je ne peux pas briller grâce à mon téléphone. Mais l'important n'est pas là, c'est une image symbolique, c'est une valeur symbolique qui est attribuée, qu'on acquiert grâce à la consommation et au gaspillage. Le gaspillage ne pourra jamais être totalement supprimé, parce qu'encore une fois, il a un sens social. Et c'est ce qu'il faut prendre conscience lorsqu'on critique la consommation en disant on va simplement être dans une frugalité merveilleuse. Mais c'est compliqué à établir, surtout dans une société inégalitaire. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, les plus riches qui auront beaucoup plus de facilité à tomber dans cette frugalité que les personnes les plus pauvres. Où là, effectivement, c'est la question du fin de mois qui compte et pas la question d'économiser quelque chose qu'ils ne peuvent pas de toute façon acquérir.
Il est temps de vous connaître mieux, disais-je. Spéciale dédicace, Crass, groupe punk.
Oui. Alors, le mouvement punk est un mouvement intéressant parce que c'est un mouvement qui va avoir une forte influence culturelle. Il est bâti sur une philosophie qui est « fais-le toi-même ». L'idée de « si on veut faire quelque chose, c'est simple, on le fait ». Et donc, il y a toute une communauté de groupes qui se sont établis, de gens qui ont fait des œuvres culturelles à partir de la fin des années 70, qui tournent autour de ces valeurs et qui vont porter une certaine forme de combat en faveur de la nature, de lutte contre la souffrance animale, etc.
Alors ça, je vous fais plaisir. Et puis après, je vous passerai, ce sera une devinette, une vedette de la même époque pour me faire plaisir.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Dernier épisode de notre série de la semaine avec Valérie Chansigaud autour de son dernier livre chez Buchet-Chastel, Les combats pour la nature. Vous permettez qu'on reste en France maintenant dans la dernière partie de ces cinq émissions. La France toujours en retard en matière scientifique, en matière académique, en matière organisationnelle, etc. etc. Hein.
Oui.
Oui. Mais la France qui peut être fière d'une de ses vedettes à peu près contemporaines de Crass. Alors c'est une devinette. C'est un monsieur très connu. Nous sommes en 1970. Vous entendrez le nom de la commune dans laquelle il habite. Il y possède une modeste demeure et un petit jardin qu'il a converti au vert.
J'ai un jardin comme beaucoup de Français, un petit jardin. C'est un potager et un verger.
Et il est en Bretagne.
Oui, oui, oui. Mais il est au Célia, il est au Célia, en Loire-Atlantique. Et alors, j'ai commencé cette année la culture biologique.
Sans engrais et sans insecticides.
Exactement. Et j'ai eu un résultat étonnant déjà. Pour la première fois, j'ai des fruits dans mon fruitier dans lesquels je peux mordre à pleine dent, je peux les prendre après l'arbre. Pour la première fois, j'ai revu des coccinelles que j'avais perdu de vue déjà depuis 15 ans, ce qui est vrai. Ce qui est vrai. J'ai vu un ou deux scarabées dorés parce qu'ils étaient sous mon nez, mais si j'étais plus attentif, j'en verrai plusieurs. J'ai vu beaucoup de coléoptères, je veux dire. J'ai des vers de terre qui sont énormes. Ils sont violets, hein, bleutés, rouges, ils sont costauds, ceux-là.
La poésie du vers de terre.
Et alors, j'ai mes oiseaux qui reviennent, et maintenant, je vois des merles, j'en ai toujours eu, mais je vois des oiseaux que je ne connaissais pas. Je ne sais pas, j'ai un guide d'oiseaux, comment s'appelle-t-il le guide d'oiseaux que j'ai ?
C'est le guide des oiseaux d'Europe de Peterson, qui est le seul guide valable pour identifier tous les oiseaux qu'on peut trouver en France.
Ah, Peterson, publié chez
De la Chouin-Nestlé.
Bon, alors c'est pas de jeu, vous avez déjà entendu ça, France Inter, novembre 1970, dimanche à la campagne, c'est
Louis de Funès.
C'est Louis de Funès, oui. Et Louis de Funès, le voilà sous une autre couleur, dans un registre moins sérieux apparemment.
Messieurs, voici le fameux CX-22 pour lequel vous avez fait le voyage.
Mon CX-22 détruit en quelques instants toutes les fumées malsaines, poussière, brouillard, particules nocives, gaz d'échappement, bref, toute cette pollution que nous respirons dans les villes. Et ce, dans un rayon de 4 km. Faisons une démonstration.
Ils vendent des machines à dépolluer dans la zizanie, quitte à polluer son jardin et à provoquer le mécontentement de sa femme, Annie Girardot. Mais enfin, arrêtons avec Louis de Funès. Ce qui est intéressant, c'est que ça permet d'illustrer Une des hypothèses de votre livre sur le mouvement écologique, notamment en France, il y aurait une tendance verte et une tendance marron. La tendance machine dépolluante, c'est marron.
Ça, c'est une idée qui a été suggérée par des sociologues néo-zélandais, et c'est une bonne idée. Pendant longtemps, à partir du 19e, on est dans un environnementalisme vert, c'est-à-dire que l'idée, on va protéger la nature, dans lequel on va restreindre les accès des êtres humains. Ils seront pas interdits, la nature n'est jamais mise sous cloche, en fait, mais c'est une autre façon de gérer la nature. Et pour l'essentiel, la protection de l'environnement, c'est la protection de cette nature, et donc d'où cette idée d'environnementalisme vert. Et à partir, grosso modo, de la Seconde Guerre mondiale, même si la chronologie est beaucoup plus compliquée que ça, évidemment, comme toujours, on est face à un autre environnementalisme, qui est l'environnementalisme marron de la pollution, qui là va toucher pas simplement qu'une fraction de la population, celle qui est en contact avec la nature, mais l'ensemble de la population. La différence, c'est le côté universel. Lorsque les grandes pollutions atmosphériques ou la pollution, par exemple, du fait des essais nucléaires vont se passer à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, ça va toucher bien l'ensemble des êtres humains et pas simplement une partie d'entre eux.
Mais alors, toutes les techniques de dépollution, toutes les techniques qui en appellent à la biodiversité peuvent avoir un effet consensuel dans ces conditions-là. Vous sortez d'un colloque là, sur la biodiversité, où vous étiez au milieu de chefs d'entreprise, de technocrates de toutes sortes. Je dis technocrates parce qu'il y a eu dans l'écologie un courant technocratique, où on ne parle pas de politique spécifiquement, où on dit que tout le monde peut se mettre ensemble à l'œuvre.
Oui, ça c'est une idée qui est très ancienne, qui est répétée, c'est à savoir que les questions d'écologie seraient détachées des questions politiques. En fait, l'idée que la question écologique n'est ni de gauche ni de droite, qu'elle transcende à cause de son importance, toutes les questions, tous les clivages politiques. C'est un peu une vision qui est quand même assez étrange, parce qu'on sait bien que la destruction de l'environnement pèse d'abord et avant tout sur les plus pauvres. Et d'ailleurs, quand on met en place un programme de restauration environnementale, il y a beaucoup d'études qui le montrent, aux États-Unis et ailleurs, c'est d'abord et avant tout ceux qui sont en haut de la pyramide sociale qui vont en bénéficier. Il y a toujours cette différence.
Mais vous me faites rire quand même, Valérie Chansigaud, parce que quand je vous ai proposé deux titres tout à l'heure pour cette dernière émission, les combats pour la nature ou les combats politiques pour la nature, vous avez dit politique, ça va effaroucher les
oui,
auditeurs.
Oui, parce qu'on est dans une situation très triste, c'est-à-dire le mot politique devient quasiment une injure. Dès qu'il est question de politique, on a des visions extrêmement dégradées de ce que ça peut être, alors que le mot politique devrait être source d'ambition, de rêve. Il devrait y avoir une dimension positive à ce mot-là. Rechercher une meilleure société, c'est un combat politique. Faire en sorte que la biodiversité ne s'écroule pas totalement, alors qu'elle est dans un sale état actuellement, c'est aussi un combat politique. C'est un combat dans lequel le respect des êtres humains, la dignité des êtres humains doit être aussi absolument importante.
On ne va pas épiloguer sur les difficultés politiques des groupements qui, au nom de l'écologie, se sont constitués depuis au moins une génération en France. Les luttes internes qui sont pas seulement des luttes de personnes, mais qui sont des luttes entre des conceptions et des théories dont vous faites l'inventaire très bien dans Combat pour la nature. Mais qu'est-ce qui rend difficile l'expression de ce courant dans la vie politique telle qu'elle est organisée en France?
Il y a plusieurs choses qui sont à l'œuvre. Déjà, le bipartisme qui caractérise la vie politique depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est quelque chose qui pèse parce que ça ne permet pas à une autre force politique de s'imposer. Certes, les choses sont un peu différentes depuis 2 ans, et encore. Et on n'observe pas ça dans d'autres pays comme la Suisse, l'Italie, l'Allemagne, où il y a une prospérité plus facile pour l'émergence d'un courant écologique. Mais il y a aussi quelque chose sans doute qui tient à notre difficulté de concevoir véritablement une solidarité qui ne peut être envisagée sans fraternité. Et que c'est la valorisation de la solidarité est pourtant au cœur de toutes les questions d'environnement. Comme disait Murray Bookchin dans les années 80, et c'est une très jolie formule, on ne peut pas mettre sur le même plan la responsabilité écologique d'un enfant de Brooklyn et du PDG d'Exxon. On est dans cette situation-là. Et tous les mouvements qu'on voit actuellement en France et d'ailleurs ailleurs, qui réclament plus de justice sociale, c'est pas des mouvements forcément contre les questions d'environnement, mais ils réclament d'abord et avant tout de la justice sociale.
Mais cependant, sur les ronds-points, on a vu des solidarités dont vous imaginez peut-être qu'elles sont fondées sur la proximité plutôt que sur une conception plus élargie.
Alors ça, c'est un phénomène qui est observé absolument de partout. De plus en plus, on est solidaire. En fait, c'est pas la solidarité qui disparaît, mais le champ de la solidarité se restreint. On est beaucoup plus solidaire avec son voisin, avec un membre de sa famille, avec quelqu'un qui nous ressemble, en fait, qu'avec un étranger complet, un étranger lointain, un étranger très différent de nous. Et tout le problème, c'est d'arriver à justifier une solidarité avec des personnes avec qui on n'a aucun lien et parfois aucun rapport, aucun contact, aucun élément culturel commun.
J'imagine qu'Élisée Reclus pourrait fournir la conclusion.
On peut l'imaginer en effet. Il a cette jolie formule, l'homme et la nature prenant conscience d'elles-mêmes.
L'homme et la nature prenant conscience d'elles-mêmes.
C'est pas qu'une formule, ça a une vraie valeur. C'est un vrai programme, un programme pour penser l'homme, penser la nature et penser une sorte de projet collectif dans lequel la solidarité effectivement a sa place. On n'oppose pas l'homme et la nature. En fait, il y aurait une question d'égoïsme humain contre une sorte d'altérité naturelle, mais bien de penser que les deux sont unis dans une même communauté de destin.
Vous pouvez expliquer pour finir à Alice Combe, qui a réalisé toute cette série avec beaucoup d'intérêt. Elle vit en Ardèche, dans l'endroit le plus reculé. Elle voudrait bien s'initier à l'agriculture. Elle prend soin de ne rien gaspiller. Pourriez lui expliquer qu'il y a quelque chose dont vous vous méfiez dans le retour à la nature, avec des guillemets, et qu'au fond, vous êtes une enfant des villes. Ce qui, pour une écologiste, dernier paradoxe, est un peu curieux.
On peut même dire que les villes sont l'avenir de la nature. Ça peut paraître tout à fait contraire aux idées reçues, tout simplement parce qu'on ne aujourd'hui, plus de la moitié de la population mondiale vit dans les villes. Et ce phénomène va continuer de s'accentuer. On ne peut pas imaginer de transporter toutes ces personnes dans la campagne parce que, pour le coup, il n'y aurait plus du tout de nature. L'avenir de la nature passe par les villes. Il s'agit bien évidemment d'améliorer aussi la vie en ville, que la nature puisse rentrer beaucoup plus facilement dans les villes.
C'est des espaces culturels hybrides, les villes, dit Élisée Reclus.
Oui, et Élisée Reclus voit bien qu'il ne peut pas y avoir de campagne sans les villes, tout comme il ne peut pas y avoir de ville sans la campagne. Encore une fois, c'est une question de solidarité. Ce qui permet la vie à la campagne a été produit par les villes, et ce qui permet la production des villes, c'est ce qui est produit à la campagne. Les deux sont intimement liés.
Et la ville a été libératrice pour vous, Valérie Chansigaud. Chez Buchet-Chastel, Combat pour la nature, et puis, on ne va pas citer de nouveau, tous les autres livres que vous avez publiés chez Actes Sud et surtout chez Delachaux et Niestlé. Lise Combe va-t-elle retourner à sa campagne? La question est posée. Nicolas Cazot était à la technique aujourd'hui et la préparation de cette série, c'était Martin Cellier.